Chapitre 3. Bas-Languedoc et Roussillon. Suivons aujourd'hui le littoral de la Méditerranée, depuis le delta du Rhône jusqu'à cette gigantesque muraille des Pyrénées qui sépare la France de l'Espagne. Nous traversons une large plaine encerclée de montagnes modérées qui fut jadis le Bas-Languedoc et qui se relève brusquement avec les vallées abruptes du Roussillon. Au premier abord, c'est, semble-t-il, une autre Provence disposée seulement en ordre inverse. Des oliviers et des amandiers où crissent les cigales, des chênes verts et des chênes lièges, et même des recoins abrités où fleurit l'oranger, des fruits en abondance, des vignes, des fleurs, où les abeilles puisent le miel qui est une des gloires de Narbonne, des rivières courtes qui ont des allures de torrents, l'Hérault, l'Aude, le Tête, le Têche, et quand on remonte les routes poudreuses qui mènent vers les hauteurs, de grands troupeaux de moutons, des pasquiers ou paquis sillonnés de canaux d'irrigation. Comme en Provence encore, des souvenirs grecs, romains, sarrasins. Sète et Agde furent des colonies helléniques. Le cap de Leucate doit à la langue d'Homère son nom qui dit la blancheur de ses rochers. Port-Vendres, Aigues-Mortes, Elne qui vit Hannibal en route pour la conquête de l'Italie, les termes, déjà fréquentés au temps où la province s'appelait la Narbonnaise, la langue qui se parle dans les campagnes, tout rappelle que le peuple roi a passé et régné par là. Des tours du Maure éparses çà et là, des édifices, des églises même, qui ont quelques traits de l'architecture arabe, disent aussi que ce fut un champ de bataille entre chrétiens et musulmans. Et pourtant non, nous ne sommes plus en Provence. La côte inhospitalière, au lieu de se découper en criques rocheuses qui offrent des abris aux bateaux, est ourlée d'étangs et de marais malsains. Le sable, les alluvions, la modifient incessamment. Les ports d'autrefois, comme Aigues-Mortes où Saint-Louis s'embarqua pour la croisade, sont à l'heure qu'il est en pleine terre. Narbonne a vu envahir par la vase ses bassins où abordaient les vaisseaux. Des îlots escarpés ont été rattachés au continent. Le sel et le salicor, qui a fourni longtemps la soude aux verreries de Venise, sont les meilleures récoltes de ce rivage changeant. Puis l'air, les produits du sol, l'esprit même de la population ont je ne sais quoi de moins léger, de plus robuste, de plus violent que dans la région provençale. Les vins y sont plus forts, plus épais, plus colorés, presque noirs parfois. Le raisin de Roussillon tache les mains comme le sang. Blanquette de Limoux, muscat de Lunel ou de Rivesaltes, vins cuits de Frontignan et de Banyuls portent aisément à la tête tant ils sont riches en alcool. N'était-il pas du pays, ce médecin et alchimiste du XIIIe siècle, Arnaud de Villeneuve, qui propagea par le monde comme un remède à toutes les maladies cette liqueur ardente et dangereuse qu'il baptisait eau de vie? Ses compatriotes n'ont pas rompu avec sa tradition. Pas de régions en France où les vignes occupent plus d'espace, où les bouilleurs de cru soient plus nombreux, les distilleries plus actives. Nous sommes bien dans une contrée qui a son caractère personnel. Des forces souterraines, volcaniques, y agissent toujours. Je n'en veux d'autre preuve que la profusion des eaux thermales, Balaruc, le Vernet, le Boulou, la Presse, Amélie-les-Bains. Agde-la-Noire est bâtie avec les laves d'un volcan éteint. Sur plusieurs points affleure le bitume, l'asphalte. Qui donc a dit que la France a dans les parages de Collioure sa petite Judée? Voici qu'on veut en faire la côte vermeille, rive à l'avenir de la côte d'Azur. Mais les villes n'y ressemblent pas à ces nids de riches oisifs que sont tant de bourgades provençales. Sauf Béziers, la bien située, Aigues-Mortes, la bien conservée, et Carcassonne, dont la cité fortifiée vous donne une si nette vision du Moyen-Âge, elle n'attire guère jusqu'ici les touristes. Ce sont des ruches plus laborieuses que coquettes. On y travaille la laine, les peaux, les vins. Narbonne, déchue de sa splendeur romaine et archiépiscopale, et qui a formé par endroits ses murs de bas-reliefs et de pierres tombales, présente un aspect plus commercial qu'artistique. Les idées ont pourtant soufflé sur le pays en tempête. Au temps des Albigeois, au temps de la Réforme, les querelles religieuses y ont flambé de toute leur ardeur. Montpellier, l'héritière de l'antique Maguelone, centre savant de la région, siège d'une université 6 fois séculaire, séjour de médecins juifs et arabes qui apportaient à l'Occident les découvertes et les rêveries de l'Orient, a senti longtemps le fagot. Raffineuse de soufre, fabricante de vert-de-gris, de produits chimiques et pharmaceutiques, d'élixirs et de poisons, elle fut un foyer d'opinions et de pratiques mal vues qui avait un vague parfum d'hérésie, voire de sorcellerie. Elle a été naturellement féconde en médecins et en chirurgiens illustres, Laperoni, Barthez, l'éditeur responsable de la théorie vitaliste. Elle le fut aussi en artiste, Vien, le plus connu, dont Louis David, son élève, fut peut-être le meilleur ouvrage, est enterré au Panthéon. Le musée Fabre qu'elle possède peut passer pour un des mieux peuplés de la province française. Elle a aussi donné naissance à des politiques à visées et fins, l'endormeur cardinal Fleury, le versatile Cambacérès, le bon administrateur et l'agréable littérateur Daru, l'habile financier de la Révolution, Cambon. En général, les esprits vifs et les caractères passionnés que tente la vie publique abondent aux alentours. Pélisson et Méran sont natifs de Béziers. La famille des Chénier est originaire de Limoux. Rouchet, le poète des mois, qui fut conduit à l'échafaud sur la même charrette que son confrère et ami André, était de Montpellier. Fabre d'Églantine, l'inventeur du calendrier républicain et l'auteur de « Il pleut bergère », naquit à Carcassonne, comme Armand Barbès, que Proudhon surnomma le Bayard de la démocratie. Le XVIIIe siècle me paraît avoir été l'époque où des hommes remarquables ont le plus vigoureusement poussé sur ce sol vigoureux. En ce pays de pensée hardie et volontiers frondeuse, la dévotion devint de bonne heure assez gaillarde, s'il faut en croire ces vers de Lefranc de Pompignan, visitant en 1740 l'abbaye de Villemagne près de Pézenas. Nos moines sont de bons vivants, l'un pour l'autre fort indulgents, ne faisant rien qui les ennuie, ayant leur cave bien garnie, toujours reposés et contents, visitant peu la sacristie, mais quelquefois, les jours de pluie, priant Dieu pour tuer le temps. Certes, le pays est bien français, mais il tient à l'Espagne qu'il regarde et d'où lui vient le tiède autant. Montpellier fut sujette des rois de Majorque, le Roussillon suivit les destinées de la Catalogne, Perpignan, dans le dédale de ses petites rues fraîches, a de-ci et de-là des apparences mauresques. Si le portraitiste Rigaud, qui est un de ses enfants, brilla dans la cour de Louis XIV et de Louis XV, Solaire, le sculpteur qui a décoré ses églises, était de Barcelone. Les 7 frères Arago, nés dans le voisinage au bourg d'Essagel, rappellent par leur nom même que l'Aragon n'est pas loin. Je ne dirai point qu'il n'y a plus de Pyrénées, mais le Val d'Andorre, cette petite république d'opéra comique, sert de trait d'union entre les deux langues et les deux nations. Et ce n'est pas le seul point où la barrière soit entre elles incertaine et fragile. Au pied du Canigou, qui se dresse à 2785 mètres, des passages s'abaissent jusqu'à 290 mètres. Bergers et moutons, contrebandiers et chasseurs vont aisément d'un versant à l'autre. Il y a toute une vie pastorale et primitive qui se soucie peu des frontières politiques. Puis Cerda, la capitale de la Cerdagne espagnole, n'est qu'à 2 kilomètres de la ligne idéale qu'ont tracé les traités. Mais ces facilités à franchir le mur pyrénéen sont contrebalancées par le débouché que le Languedoc trouve vers la vallée de la Garonne. Par le col de Naurouze, à 190 mètres seulement d'altitude, le bassin de la Méditerranée communique avec celui de l'océan. C'est par ce couloir qu'ont défilé les peuples allant du nord au midi ou du midi au nord. C'est par là que grimpent la route et le chemin de fer menant de Narbonne à Toulouse et à Bordeaux. C'est par là que Paul Riquet, ou Riquetti, un ancêtre de Mirabeau, a frayé sa voie au canal des Deux Mers, qui joint le Rhône à la Gironde, un canal bien étroit et trop peu fréquenté, mais qui pourrait, le jour où les capitaux français cesseront de courir les aventures à l'étranger pour se rabattre sur des entreprises nationales, devenir une large coupure de ce qu'un vieux géographe appelait l'isthme gaulois, un précieux raccourci offert aux vaisseaux allant de l'Atlantique à la Méditerranée. C'est par là aussi que le Languedoc se rattache au mouvement français. C'est par là que nous passerons à notre tour pour continuer notre voyage.